Well, once in a day.
Alors j'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur parce que on a prié la semaine passée pour notre je sais plus quand on a prié. C'était dimanche passé, hein. Et donc c'était quand même une opération assez délicate. Et donc comme vous pouvez voir, le Seigneur est parmi nous et le Seigneur est passé. Le Seigneur est venu. Applaudissons le Seigneur. Le Seigneur est bon. Alors, on va continuer notre visite chez Luc. Luc, chapitre 19. On avait déjà vu Luc 18 et 19, on avait déjà considéré. Donc dans Luc 18, on avait déjà considéré l'histoire de Bartimée. Dans Luc 19, on a vu l'histoire de Zachée. Et donc, on va considérer la fin du chapitre 19 à partir du verset 47. Donc, vous vous souvenez, donc, on a vu au début du chapitre, c'était question de l'entrée de Jésus à Jéricho. De Jéricho, donc, il est allé à Jérusalem parce qu'il y avait la fête de la Pâque. Et alors, voilà donc le contexte. Verset 15. Il entra
dans le temple. Donc, il s'agit de Jésus. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Maintenant, il faut savoir que ici, si on pourrait appeler ça le nettoyage du temple, c'est la deuxième fois que Jésus nettoie le temple. D'après les spécialistes, donc on peut voir dans Jean, dans l'évangile de Jean, il est question aussi que Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Et là, c'était au tout début de son ministère. Ici, c'est un peu plus loin au cours de son ministère. Et là, une deuxième fois, eh bien, Jésus se fâche. Il n'est pas content de ce qui se passe dans le temple. Et alors, il chasse les vendeurs. Et puis, il dit, il est écrit. Où est-ce que ça a été écrit? Ésaïe 56. On va lire ça. C'est dans Ésaïe 56. Ésaïe 56, verset 7, je les ramènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est extraordinaire. Et si on lit un peu plus en avant, si on lit verset 6, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les ramènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour Israël, pour tous les peuples. Vous vous rappelez de ma prédication que j'avais parlé sur l'alliance abrahamique. Il y avait eu l'alliance avec Adam. Ensuite, l'alliance avec Noé. Ces deux alliances, on aurait dit que c'était une alliance universelle adressée à toute l'humanité. Et puis, il y a eu l'alliance abrahamique qui, en apparence, était adressée à un homme et une nation, mais en réalité, c'était tout autre. C'était une alliance pour toutes les nations, parce que Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, il ne s'agit pas que d'Israël. Et c'est intéressant de voir ici que dans Ésaïe, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Revenons donc à notre passage. Il était bien de lire d'où cela vient, donc cette citation de Jésus. Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient. Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi est-ce qu'il vendait dans le temple? Je vous ai dit que c'était la Pâque. Donc, les Juifs, en général, il y avait trois grandes fêtes. Hein. Il y avait cette fête officielle, mais il y avait trois fêtes qui drainaient donc les Juifs à Jérusalem. Et chaque année, les Juifs venaient à Jérusalem pour célébrer ces fêtes. Et parmi ces fêtes, donc il y avait Pâques, Pentecôte et puis la fête des semaines. Donc Pâques qui rappelle comment Dieu avait délivré Israël d'Égypte. Et donc, c'était un moment important pour Israël, et il venait donc à Jérusalem célébrer. Maintenant, vous savez que lorsque les Juifs venaient célébrer l'Éternel à Jérusalem, il fallait qu'ils offrent des sacrifices, des offrandes au Seigneur. Et à l'époque, c'était des sacrifices d'animaux. Maintenant, tous ces Juifs qui venaient de Rome, de Damas, de je ne sais où, donc de toute la Méditerranée, de tous les pays connus d'alors, donc ces Juifs-là avaient fait un long voyage. Et donc, il n'était pas question qu'ils amènent leurs animaux de Rome, de Damas, de je ne sais où, parce que une fois arrivés, ces animaux ont été fatigués, malades, et si les animaux n'étaient pas parfaits, donc ces animaux-là ont été disqualifiés et ne pourraient pas, donc ne seraient pas propres pour les sacrifices. Donc, ce qui fait que lorsqu'ils arrivaient en pèlerinage, ils arrivaient à Jérusalem, ils achetaient les animaux pour faire les sacrifices. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour acheter ces animaux-là, eh bien, il fallait payer. Il fallait payer pour les acheter. Mais payer avec quoi? Avec l'argent du temple. Et donc, c'est comme autrefois en Europe, lorsqu'il n'y avait pas l'euro et que tu voyageais, hein, une fois arrivé sur le territoire, tu changeais l'argent, ou bien certains changeaient même avant de partir. Donc, arrivé sur place, donc à Jérusalem, donc dans le temple, ils devaient changer l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quelque chose qui était censé faciliter la vie des gens est devenu maintenant un commerce juteux. Et donc, ceux qui vendaient dans le temple, c'était pour eux une occasion vraiment de faire de bonnes affaires. Mais pas des affaires tout à fait claires, pas tout à fait justes. Ils profitaient des gens de deux façons. Ils profitaient sur le taux de change. Donc, c'est quand autrefois tu voyageais, il fallait bien repérer les endroits où tu pouvais avoir un bon taux de change. Donc, quand tu allais dans le temple et que tu étais venu faire des sacrifices pour l'Éternel, donc tu étais obligé d'accepter le taux de change qu'on t'imposait. Donc, premier bénéfice sur le taux de change. Deuxième bénéfice, c'est que les animaux étaient vendus à un prix plus élevé qu'ailleurs. Hein, c'est comme certains endroits, si tu achètes à l'aéroport, certaines choses coûtent plus cher. Hein, quand il y a certaines foires ou célébrations, quand tu achètes sur place, le prix est plus élevé. Et donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que quand le commerce est florissant, c'est comme autrefois à l'époque à Bruxelles, lorsqu'il y avait ce qu'on appelle les centres téléphoniques, puisque ça rapportait de l'argent, eh bien tout le monde s'engouffrait dans ce commerce-là. Bon, il en existe encore quelques-uns, mais plus tellement comme auparavant. Alors, ce qui fait que quand les gens arrivaient pour adorer, et il n'y avait plus moyen vraiment d'adorer, parce que c'était le vacarme, c'était vraiment le commerce. Et ces gens-là qui arrivaient au départ tout joyeux pour célébrer l'Éternel, mais ils étaient bien vite frustrés. Frustrés parce qu'ils escroqués par le taux de change et par le prix exorbitant qu'ils devaient payer. Et donc là, Jésus se fâche. Il dit, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Et rappelez-vous, donc on ne va pas s'arrêter à simplement une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et ici, j'aimerais souligner trois points. Et c'est pour ça que je vous ai fait lire aussi, Ésaïe. Il y a trois choses. Lorsqu'on arrive à la maison du Seigneur, normalement, il y a un mot qui m'a touché en préparant, c'est quand nous relisons encore Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai. La maison de l'Éternel doit être une maison de réjouissance et aussi une maison où l'on rencontre Dieu par la prière et l'enseignement. On voit dans le passage que nous avons lu, une fois que Jésus avait chassé les vendeurs du temple, au verset 47, dans Luc 19, il est dit, il enseignait tous les jours dans le temple. Aussi longtemps qu'il y avait ce brouhaha, ce vacarme, ce désordre, eh bien, on ne pouvait ni prier, on ne pouvait ni, donc, écouter la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus s'est fâché, eh bien, contre ses vendeurs. Ce qui est extraordinaire, c'est que on a les principaux sacrificateurs, on a les scribes et les principaux du peuple, Ils avaient vu tout cela, mais ils n'avaient rien fait. Probablement qu'ils participaient au trafic. Probablement que cela, ils avaient leur intérêt à laisser aller le désordre, à laisser aller l'escroquerie. Et donc ici, Jésus se fâche. J'aime beaucoup ce passage. En fait, non seulement ce passage, mais cet incident qui nous est rapporté par l'évangile où Jésus se fâche. Et on voit que Jésus, c'est pas l'être efféminé comme on peint des fois hein, dans des œuvres d'art, comme si Jésus, c'est, ou bien quand on est petit, on nous parle du petit Jésus, du petit Jésus sans réaction. Ici, on voit Jésus se fâche. Et je pense que c'est important de comprendre que il y a une colère qui n'est pas nécessairement péché. Vous connaissez peut-être Éphésiens 4. Regardons ensemble Éphésiens 4. Verset 26. Alors, dans la version Louis II, on ne saisit pas tout à fait le sens du passage. Et y a-t-il quelqu'un qui n'a pas lu second 1910, mais une autre version? Éphésiens 4, verset 26. Oui? Ok, oui.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne vous touche pas sur votre colère.
D'accord. Une autre version. Quelqu'un a-t-il une autre version? Ouais, j'ai la même chose ici aussi, mais bon, j'ai d'autres versions ici avec moi. Donc, ce passage que Paul cite ici, c'est... En fait, Paul cite un passage ici, c'est le psaume 4, verset 5. Et malheureusement, dans la seconde, il a dit si vous vous mettez en colère. Mais dans d'autres versions, il a dit soyez en colère ou mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Dans la Bible du Semeur, attendez, je vais prendre le dans la ici dans Psaume 4 que il a dit Psaume 4 verset 5, mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Hein, Psaume 4 verset 5, mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Je vais lire le même passage aussi dans Éphésiens. Oui, exactement. Éphésiens. Éphésiens 4, verset 26. Mettez-vous en colère. Mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. En d'autres termes, il y a ce qu'on appelle une sainte indignation face au péché qu'on doit avoir. On ne peut pas être indifférent par rapport au péché. Et je l'avais déjà dit ici, c'est grâce à certaines indignations saintes que certaines choses ont changé dans le monde. Même si nous savons que nous ne pouvons pas changer le monde tout à fait, que ce changement viendra seulement lorsque Jésus va revenir. Il y a eu le cas de William Wilberforce, hein, qui a, grâce à sa sainte indignation, hein, il a pu contribuer à l'abolition de l'esclavage en Angleterre. Hein? Et grâce à la sainte indignation de Martin Luther King, des choses ont changé aux États-Unis, même s'il y a encore beaucoup de problèmes. Mais bon, c'est grâce à lui que maintenant on peut avoir un président noir aux États-Unis. C'est grâce à lui que, en fait, beaucoup de noirs américains peuvent faire certaines études, etc. Donc, c'est encore très imparfait, mais il y a eu des avancées grâce à sa, si je peux dire, à sa sainte indignation. Et donc, c'est un appel aussi pour nous que nous ne pouvons pas être indifférents, passifs face au péché. Maintenant, le danger, c'est qu'il faut faire la différence quand on a une sainte indignation pour les choses de Dieu et lorsque nous mettons en colère parce que notre moi, hein, notre ego est agressé, est insulté. Et nous pouvons voir que Jésus, lorsqu'il était insulté, si je pourrais dire personnellement, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'a pas ouvert la bouche. Hein? Il n'a pas ouvert la bouche. Et il n'a rien dit. Il a tout accepté. Je sais que c'est assez délicat, mais que le Seigneur nous aide. Mais ce que je veux dire, c'est que il peut arriver un moment où on a une sainte indignation inspirée par l'Esprit de Dieu, inspirée par notre désir de droiture, de faire les choses comme le Seigneur. Et donc Jésus s'est mis en colère. Et donc Paul nous met en garde, ok, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. C'est-à-dire si après ta colère, hein, si après ta colère, tu sens que il y a des choses qui rongent ton cœur. Là, donc, c'est signe que, hein, attention, il y a peut-être un péché. Hein, parce que tu ne peux pas aller dormir bouleversé. Hein, il faut que ça s'évacue. Et donc, tu ne peux pas dormir troublé. Mais si tu dois intervenir, si tu dois faire quelque chose, et tu l'as fait, tu as accompli la volonté de Dieu, je pense qu'il doit y avoir quand même une certaine paix. Tu peux te dire, j'ai dit ce que je devais dire, j'ai fait ce que je devais faire, Seigneur, maintenant c'est à toi d'agir. Amen. Donc voilà, il y a une sainte indignation qu'on peut avoir. Mais bon, bien sûr, on ne peut pas passer sa vie avec un colère, hein. Là, il y a un problème. À la fin, ça devient épuisant. Ça peut épuiser tout à fait. Donc voilà, il y a une sainte colère qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être indifférent donc par rapport au péché et par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et donc le monde doit connaître notre position par rapport à certaines choses. Mais si le monde ne connaît pas notre position, à ce moment-là, c'est grave. Hein? Pour certaines choses, le monde doit connaître notre position. Et donc, Jésus a dit, ça suffit. Et il est intervenu de manière énergique. Donc, on voit que Jésus peut être énergique et que le Seigneur peut se fâcher aussi. Hein? Donc, le Dieu du Nouveau Testament peut se fâcher aussi. Il n'y a pas que le Dieu de l'Ancien Testament qui se fâche, hein? qui exécute le jugement. Alors voilà, donc pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus se fâche? Parce que tous ces Juifs du monde hellénique qui étaient venus pour se réjouir, au lieu de connaître la joie, la réjouissance, ils connaissent la frustration. Et donc la maison de Dieu ne doit pas être un endroit où on connaît la frustration. Mais c'est un endroit où on vient pour se réjouir dans la présence de Dieu. Amen. Et ils se réjouiront. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ils se réjouiront. Donc on vient dans la présence de Dieu pour se réjouir. Et c'est bien comme notre sœur dit, donc on laisse de côté tous les soucis, les caca, on vient dans la présence de Dieu, on vient le rencontrer. Donc la première chose, la maison de Dieu ne doit pas être un endroit de frustration, mais un endroit de réjouissance. Et deuxièmement, c'est après une maison de prière. Donc il faut qu'il y ait la prière. Il faut qu'il y ait aussi l'enseignement. Et on voit au verset 47, Jésus, il enseignait tous les jours dans le temple. Et quand on voit Actes des Apôtres, c'est la même chose aussi. Dans Actes des Apôtres, on apprend que les apôtres passaient du temps dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, et aussi, ils enseignaient. Et donc, quand ces vendeurs étaient là, eh bien, c'était juste la vente qui les intéressait. C'était juste le business. Et donc, Jésus était fâché. Et la troisième chose aussi, c'est que on voit que même pour le temple de Jérusalem, construit par Salomon, la maison de Dieu devait être une maison d'inclusion, pas d'exclusion. Même les étrangers pouvaient venir dans le temple de Jérusalem et prier. Et si l'on se souvient bien même de la prière de Salomon, il dit Salomon, et Salomon disait à Dieu, Éternel, lorsque les nations entendront parler de toi, de ta grandeur, de ta magnificence, et lorsqu'ils viendront dans ce temple pour te demander quelque chose, exauce-les des cieux. Exauce-les des cieux. Et donc c'est pour cela que dans Ésaïe, il dit, eh bien, je les réjouirai dans ma montagne sainte. Et maintenant, que faisaient les vendeurs? Ils faisaient de la discrimination. Donc, ceux-là qui venaient de loin étaient obligés de payer un prix très fort pour pouvoir adorer le Seigneur. On ne leur facilitait pas les choses. Ils étaient discriminés. Donc, puisque tu viens de loin, donc ça veut dire que tu es riche, tu as pu te payer le voyage, on va te presser, on va te presser et tu vas rendre tout l'argent que tu as et tu ne peux rien partir de, en fait, tout ce que tu as amené à Jérusalem, ça doit rester à Jérusalem. Et donc voilà, c'était de la discrimination. Donc la maison de Dieu est appelée à être une maison d'inclusion. Et pour revenir encore à Martin Luther King, je me rappelle toujours lorsque Martin Luther King menait son combat, et dans un de ses livres, en tout cas, dans un de ses livres au moins il a écrit cela, peut-être qu'il l'a écrit dans plusieurs livres, mais en tout cas dans un de ses livres, quand il menait son combat contre la ségrégation raciale, il disait quelle était l'heure la plus ségrégée aux États-Unis. C'était 11h du matin. Pourquoi 11h du matin? Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'heure de l'église. C'était l'heure la plus ségrégée parce que, eh bien, donc, à l'époque, les noirs et les blancs ne se mélangeaient pas. Et donc, l'église qui devait représenter la justice, eh bien, l'église qui devait corriger le système, ou du moins mettre un frein ou mettre des limites au système, eh bien, l'église encourageait le système. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir, par exemple, si l'on veut parler d'un autre pays, de l'Afrique du Sud, l'apartheid était soutenu par des gens d'église et qui trouvaient même des références, des bases à l'apartheid dans la Bible. Quelle aberration! Et on peut comprendre pourquoi Jésus se fâche des fois. Et donc, nous aussi, Nous ne pouvons pas rester indifférents à certaines choses. Donc nous devons faire attention que comme Jésus, eh bien, nous ne soyons pas indifférents face au désordre, face, je peux dire, au blasphème, face à la souillure de la maison de Dieu, face à la souillure du beau nom que nous portons. Et donc Jésus est intervenu et il a rappelé que sa maison sera une maison de prière. J'ai dit que la maison de Dieu, c'est une maison de réjouissance. Mais maintenant, je sais que dans certains milieux, on est allé à l'extrême. On pense que la maison de Dieu, c'est comme une discothèque. Et je me rappelle, j'avais une église à Bruxelles, et puis il y a quelqu'un, je ne peux pas dire un frère, il y a quelqu'un qui est venu vers moi en disant, « Ah, je viens à l'église parce que j'aime l'ambiance. » Ok. Bien sûr, l'ambiance doit être bonne, mais on ne vient pas à l'église rien que pour l'ambiance. Si tu ne viens que rien que pour l'ambiance, là, ça ne va pas. Il y a des gens qui vont dans certaines églises rien que pour danser. Alors, je dis au frère, si tu viens simplement pour danser, il y a des discothèques. Bien sûr, on se réjouit dans la maison de Dieu, mais il ne faut pas aller à l'extrême. Il y a deux extrêmes. Ah, je viens de parler de cet extrême où on pense que l'on peut faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et puis l'autre extrême, c'est de croire que le chrétien, il est triste. Qu'il n'y a rien qui se passe, que l'église est un endroit mort. Est-ce que nous sommes morts? Non, on n'est pas morts. On est vivants. Donc voilà, l'église de Dieu doit être, la maison de Dieu doit être un endroit vivant. Parce que nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu vivant. Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples. Dans Marc, il est dit, pour tous les peuples. Marc 11, c'est le passage parallèle de Luc. Marc 11, verset 12. Le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles. Il alla voir s'il y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit, « Que personne ne mange de ton fruit, et ses disciples entendirent. » Verset 15, ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait, disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc voilà, ici, il mentionne pour toutes les nations. Dieu est un Dieu d'inclusion. Lorsqu'il a choisi Israël, c'était pour qu'Israël soit son témoin, soit le relais de son message de salut. Jésus lui-même disait à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Ça veut dire que le salut est transmis via les Juifs. C'est pas les Juifs qui donnent le salut, mais c'est via les Juifs. Donc, et la même chose aussi aujourd'hui, le Seigneur nous utilise pour communiquer son message. C'est par exemple, si toi tu parles à quelqu'un et la personne accepte le Seigneur, on peut dire le salut vient de Ben. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui sauves, mais ça veut dire que le salut est passé par toi. Le Seigneur t'a utilisé. Et donc, le problème, c'est que, avec les Juifs, ils sont devenus orgueilleux, disant, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, donc, les autres qu'on oublie. Oh non! Dieu n'avait jamais eu cette intention de réserver son salut seulement à un peuple, à une nation. Mais son salut, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Et il l'a montré même à travers le temple qui était le symbole de la présence de Dieu en Israël. Et dans ce temple, eh bien, tout cela qui avait un cœur sincère, eh bien, ils pouvaient venir et le Seigneur pouvait les entendre. Donc, qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui? Nous devons avoir les portes ouvertes. Les portes ouvertes pour tout le monde. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle pour que les gens viennent au Seigneur. Et les vendeurs du temple étaient des obstacles à ce que des gens viennent au Seigneur. Ils étaient des obstacles. Les gens étaient frustrés d'avance parce qu'ils disaient, ah, je vais faire tout ce voyage, après je vais me faire escroquer par un taux de change énorme, et ensuite je vais payer très cher. Est-ce que ça favorisait le désir d'adoration? Non, hein. Et donc, là encore on peut voir comment cela qui était censé représenter Dieu, censé amener les gens à Dieu, eh bien c'était cela même qui empêchait que les gens viennent au Seigneur. À maintes reprises, nous trouvons cela dans le récit des évangiles. Cela qui était censé d'encourager les autres à venir à Jésus, eh bien, c'était ceux-là qui étaient des barrières, des empêchements à ce qu'ils viennent à Jésus. Nous l'avons vu avec l'histoire de Bartimée. Nous l'avons vu aussi avec Zachée. Et là encore, nous voyons la même chose. Bon, d'une autre façon. D'une autre façon, ceux-là, ils étaient des barrières à cause de leur commerce. Ils ne s'intéressaient pas à Dieu, vraiment. Mais, ils utilisaient Dieu comme moyen. C'est comme il y a au 19e siècle, certains utilisaient la mission pour faire la politique. Donc ils venaient implanter la foi, voilà, nous amenons la civilisation. Ils ne disaient pas même l'évangile, hein, nous amenons la civilisation. Et ils faisaient toutes sortes de choses au nom du christianisme. Et des gens, maintenant, certaines personnes se sont révoltées contre la Bible, le christianisme, disant, ah, si c'est ça le christianisme, on n'en veut pas. Et donc, au point que certaines personnes ont assimilé l'évangile, puisque c'était l'Europe souvent qui allait dans ces pays-là, disant que l'évangile est européen, alors que c'est pas vrai, l'évangile n'est pas européen. D'où vient l'évangile? L'évangile, ça vient du Moyen-Orient, d'Israël. Donc, je rappelle les trois points. La maison de Dieu, c'est une maison de réjouissance. C'est normal, puisque c'est l'endroit, normalement, où nous rencontrons le Seigneur. Amen. Nous rencontrons le Seigneur par la prière et aussi par sa parole. Donc, la maison de Dieu, ça doit être un endroit où la parole, sa parole est annoncée. Et si sa parole n'est pas annoncée, il y a quelque chose qui manque. S'il n'y a pas la prière, il y a quelque chose qui manque. Et si on est frustré, là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, lorsque on vient dans la maison de Dieu, notre cœur doit être réjoui. Non pas on vient juste pour se réjouir, mais on vient pour le Seigneur. Et parce qu'on a rencontré le Seigneur, on est réjoui. Amen. Ah, il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Hein. Donc, c'est comme cela, comme j'ai dit, qu'ils viennent juste pour l'ambiance. Non, on ne vient pas pour l'ambiance. On vient pour le Seigneur, et parce qu'on a rencontré le Seigneur, on est heureux. Hein? on ne peut pas sortir de la présence du Seigneur et être fâché. Vous avez vu quelqu'un sortir de la présence du roi et être fâché? Non, cette personne est tellement contente, elle va raconter à tout le monde. Hein. Cette personne est fière. Ah, tu sais quoi? J'ai mangé avec le roi. Hein. Je pense que si quelqu'un a visité le roi cette semaine ou il y a un repas avec le roi, tout le monde le saura. Hein. Alors c'est la même chose, nous aussi. Nous avons été en présence du roi. Nous sommes en présence. Donc nous devons communiquer ce message. C'est ça, témoigner. Témoigner, c'est pas faire de la théologie, hein. C'est dire ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est dire ce que tu vis avec le Seigneur. C'est du débordement de joie que tu as de connaître le Seigneur, de marcher avec le Seigneur et tu dis, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi et voilà ce que le Seigneur peut faire pour toi aussi. Parce que notre Seigneur, il est vivant. Amen. C'est un Seigneur vivant que nous servons. C'est pas un Dieu mort. La tombe est vide. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il ne fait pas de discrimination. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. Et cela, il l'a dit dans l'Ancien Testament. C'est pas dans le Nouveau Testament. Extraordinaire, n'est-ce pas? Comment est-ce que les Juifs n'ont pas remarqué cela? Oh là! Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et cela, c'est pour vous montrer que Dieu, c'est pas en fait Dieu a changé d'avis. C'est pas que Dieu, au départ, il pensait seulement à Israël. Et puis après, il a dit, ah bon, peut-être qu'on peut faire aussi quelque chose pour les autres. Non. Dès le départ,
Dieu avait un plan pour chacun de nous. Amen. Dieu a un plan pour chacun de nous. Je me rappelle, quand j'étais à l'école publique, à un moment donné, il n'y avait plus de bibliothécaire. Il y avait, la bibliothécaire, c'était une des dames, et je ne fais pas attention. C'est pas qu'elle devait prendre attention, elle devait prendre attention de toute façon. Mais elle avait un problème.